Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons lire les textes, le texte de la prédication tiré de l'évangile de Marc, au chapitre 13, des versets 1 jusqu'au verset 37. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un de vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand sera le moment. il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste, et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez.
Impossible d'être en veille sans une source d'énergie. Comme il est impossible de comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. On vient de l'entendre dans la prière. Donc, branchons-nous toujours au Saint-Esprit pour être en veille et comprendre la parole de Dieu. C'est une joie de pouvoir ouvrir l'évangile ensemble aujourd'hui. Donc, nous poursuivons le parcours dans l'évangile selon Marc, que j'aime parfois appeler le journal de Pierre, écrit par Marc, afin de comprendre qui a le plus influencé l'écrivain de cet évangile. Et les récits que nous lisons dans ces évangiles sont réels. Ils se sont réellement passés. Et c'est un témoin de ce que Jésus a fait et qu'il a dit, qui est la source de cet évangile selon Marc. Alors c'est vrai que certains veulent bien croire que Jésus a existé, mais ils ne veulent pas écouter ce qu'il dit. Ils ne veulent pas écouter ce qu'il nous parle encore aujourd'hui dans un des documents, ou le document le mieux attesté historiquement, dans toute l'histoire de l'humanité. Mais nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous voulons pas être de ceux qui n'ont jamais lu l'évangile même. Nous voulons la lire, l'écouter et chercher à comprendre ce qu'il veut nous dire aujourd'hui dans ce long texte. J'ai pris un long texte aujourd'hui. Alors en fait, c'est la plus longue réponse de Jésus à une question dans Marc. En fait, c'est la réponse à une question, hein. Et cette réponse a 32 versets. Donc c'est la réponse à la question qui se trouve au verset 4. Hein. Vous avez vos bibles ouvertes dans Marc 13, ça vous permet de voir où on est. Donc au verset 4, il y a une question où les disciples disent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annoncé annonçant la fin de toute chose ?» hein. Donc c'est vraiment la plus longue réponse qu'on trouve dans Marc. Alors, je l'ai prise en entier pour aujourd'hui. Et Jésus, dans ce contexte, va parler de l'avenir. Voilà pourquoi le titre de la prédication est tout simplement « Jésus parle d'avenir ». Ce matin, nous n'allons pas nous attarder sur chaque élément du texte. Je pense que vous l'avez déjà un petit peu saisi, parce qu'on serait encore là demain matin. Ce serait chouette, disons, mais c'est pas prévu. Hein, mais nous allons plutôt chercher à comprendre le texte, le mouvement du texte, la pensée globale, pour ensuite être capable de saisir chaque aspect de ce texte. C'est un petit peu l'idée. Alors, il est possible que l'approche que je vais vous présenter vous est familière. Si vous avez fait des études bibliques ici il y a quelques années, quand on a fait Matthieu, eh bien, on a lu Matthieu 24, qui est un parallèle à ce texte ici. Et nous avons déjà vu ensemble un petit peu comment y faire face. Mais peut-être que d'autres ne sont pas du tout familiers avec ce que je vais vous dire ce matin. Qui est donc, comme j'ai dit, le texte parallèle entre Matthieu 24, Luc 21 aussi, et avec Marc 13. Pourquoi beaucoup ne sont pas familiers? Parce qu'en fait, la francophonie a été très influencée par la vue eschatologique dispensationaliste, hein, de façon consciente ou non. Et ces textes, souvent, en fait, ont été interprétés en lien avec ce système eschatologique. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à éviter de mettre un système eschatologique comme grille de lecture, c'est-à-dire, mais est-ce que ça correspond à ce que je pense pour la fin des temps? Non, on va voir qu'est-ce que le texte nous dit et chercher à comprendre ce qu'il nous explique concernant les événements à venir. Alors, je vous avertis aussi tout de suite que je ne vais pas chercher à expliquer tous les éléments qui concernent l'avènement de Jésus-Christ. Il y a d'autres textes aussi dans l'Écriture qui en parlent, hein, mais nous chercherons aujourd'hui à rester sur ce que Marc 13 nous enseigne. Donc, s'il y a des choses que je n'ai pas dites, vous dites, mais ça fait partie, oui, il y a d'autres choses dans d'autres textes bibliques, mais que je ne vais pas aborder ce matin. Encore une précision, lorsque je parle de l'avènement de Jésus-Christ, il s'agit de son retour en gloire. C'est ce que le Nouveau Testament indique souvent par le jour. Au singulier, quand il parle du jour du Seigneur, c'est le jour de l'avènement de Jésus-Christ, son retour en gloire. Souvent, j'aime bien dire avènement plutôt que retour, parce que retour veut dire qu'il n'est pas là. Alors, c'est retour dans son corps physique, c'est vrai, c'est juste, mais il est là par son esprit. C'est pour ça que j'aime bien ce mot avènement, qui parle de ce temps glorieux où il se manifestera aux yeux de tous. Donc Jésus vit ses derniers jours avec ses disciples ici. Et c'est la dernière semaine de vie qu'il est en train de passer avec eux. Et il vient de quitter le temple pour toujours. Il était dans le temple avec eux et il l'a quitté et il n'ira plus jamais dans ce temple. On pourrait dire que la gloire manifestée dans le temple qui avait été annoncée est réellement arrivée. Les prophètes avaient dit que ce temple serait d'une grande gloire. C'est Christ qui a amené cette gloire. Et il s'en est allé. Jésus va parler de la destinée de ces tas de pierres à ses disciples, justement, maintenant. Parce que ses disciples admirent, évidemment, cet édifice, comme toutes les personnes de l'époque aussi. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble que Jésus parle ici de deux événements distincts dans ce texte. Et ça sera notre premier point. Jésus parle de deux événements distincts. Nous verrons ensuite les caractéristiques de ces deux événements. Donc, en deuxième point, on parlera des caractéristiques. Donc je vais gentiment ce matin. Je vais pas trop vite, j'espère. Donc premier point, ces deux événements distincts, je vais vous le démontrer. Et puis ensuite, les caractéristiques distinctes pour ces deux événements. Et nous verrons dans un dernier temps que Jésus appelle ses disciples à avoir une attitude particulière face à ces événements. Et notre troisième point s'intitulera donc l'attitude dans l'attente. L'attitude dans l'attente de ces événements. Donc commençons par le premier point, deux événements distincts. Alors j'aimerais tout d'abord que l'on comprenne que dans la tête des disciples, il n'y a pas de distinction d'événements. On va faire un exercice qui n'est pas facile ce matin, c'est qu'on va devoir revenir en arrière dans ce que les disciples comprenaient, sans les informations qu'on a, pour comprendre certaines choses. C'est pas évident, hein, mais ça fait rien, on va essayer. Donc pour les disciples, il n'y a pas de distinction d'événements. Pour eux, le jugement, l'avènement de Jésus, la fin du monde, c'était un événement. C'est pour ça qu'ils demandaient à Jésus, mais quand c'est que ça arrivera? Et en plus, ils étaient juifs et ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu pouvait régner dans ce monde sans le temple. C'est la pièce maîtresse de la présence de Dieu, qui manifeste sa présence. Et sans le peuple juif mis à part, qui manifeste quelque part la sainteté de Dieu dans ce monde par sa pureté rituelle. Alors rappelons-nous que nous sommes à ce moment-là avant la crucifixion de Christ, l'agneau parfait immolé pour la purification des élus, de tous ceux qui croient en Christ. Les disciples n'ont pas encore saisi que Jésus va mourir et aussi ressusciter, même s'il leur a annoncé déjà à plusieurs reprises. Ça, ils n'ont encore pas saisi. Mais pour nous qui vivons, maintenant je fais un saut pour nous, pour nous qui vivons après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui avons tout le Nouveau Testament, nous pouvons comprendre, là je vous en ai condensé, nous pouvons comprendre que Jésus est l'Israël de Dieu. Jésus est l'Israël de Dieu. Jésus est le descendant d'Abraham. C'est la descendance, comme le dit Galate. Jésus a parfaitement accompli la loi du Sinaï. Il a parfaitement accompli la loi du Sinaï. C'est le descendant de David. Le descendant de David. C'est le Messie libérateur de l'esclavage du péché. C'est le Saint de Dieu qui a réussi là où Adam et le peuple d'Israël ont échoué. Jésus, c'est le centre de notre pensée. C'est celui qui accomplit toutes les prophéties. Et ça, c'est un élément tellement important à comprendre. C'est le centre. Dès que Christ n'est plus le centre, on s'éloigne de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous pouvons donc comprendre que sans le temple à Jérusalem, Dieu continue à manifester sa présence sur terre. Et qu'un peuple mis à part manifeste la sainteté et l'amour de Dieu aujourd'hui. Ce peuple s'appelle le corps de Christ. Parce qu'en fait, c'est au travers de Christ que cela se vit et se fait. Si Christ n'est pas là, il n'y a rien. C'est Christ qui permet de vivre cela. Et c'est l'Esprit de Christ qui vit dans le cœur de ceux qui font partie de son corps. Jésus lui-même a assimilé le temple à sa personne. C'est assez fort, ça. À son corps, si vous voulez. C'est le temple de la présence de Dieu. Nous pouvons donc comprendre que la destruction du temple et donc le changement de la manière d'adorer Dieu de l'ancienne alliance, c'est effectivement ça qui s'est passé. Les Juifs, d'ailleurs, ne peuvent plus adorer Dieu comme avant. Il n'y a plus de temple. On ne peut plus faire de sacrifice. Bon, je ne vais pas entrer dans cette considération maintenant. Très intéressant aussi. Mais il y a vraiment un changement qui s'est passé et nous pouvons comprendre que ce changement est distinct de l'avènement du Christ. Donc la fin du temple et l'avènement de Christ sont deux événements distincts. Et ça, nous pouvons le comprendre parce que nous comprenons que Dieu continue à être Dieu, continue à manifester sa présence, continue à avoir un peuple, même s'il n'y a plus de temple à Jérusalem. Donc revenons maintenant aux paroles de Jésus dans Marc. Voilà, j'ai donné des éléments qui sont un peu en arrière-plan. Jésus indique aux disciples un événement précis avec toutes sortes d'événements qui se passeront en Judée, dans une période de temps précise. Puis, il parle d'un deuxième événement où il n'y a ni élément géographique, ni élément de temps où on peut reconnaître quand cela va se passer. Ce sont les versets 30 à 32 qui font le pivot dans ce texte. On peut les lire, là. Versets 30 à 32, c'est un peu le pivot. Verset 30, « en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. » Au verset 30, Jésus dit clairement que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Jésus précède cette affirmation par un « en vérité ». Quand Jésus dit « en vérité », il ne le dit pas tout le temps dans ses paroles, c'est qu'il veut dire quelque chose d'important, qu'il veut souligner son affirmation. Elle est solennelle. Et pour la rendre encore plus solennelle, il la fait suivre d'un texte qui est très fort, qui dit « le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce que je vous dis est la vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et le terme « génération » dans Marc désigne toujours les contemporains de Jésus. Vous pouvez aller dans Marc 8, dans Marc 9, enfin, vous pouvez chercher ce terme, c'est toujours des contemporains de Jésus. Cela signifie que tout ce qui est dit jusqu'au verset 31 concerne un événement dans un proche avenir. Et au verset 32, il change d'événement. Pour ce qui est du jour, remarquez le singulier là. Pour ce qui est du jour, il ne dit plus que cela va se produire pendant cette génération. Il dit plutôt personne ne connaît. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas d'information. Si ça se passait dans la génération, on aurait déjà une information du temps. Personne ne connaît. C'est quelque chose que Jésus ici annonce clairement. Donc ce dont il parlait avant le verset 32 était connu, il était possible de s'y préparer. Jésus lui-même savait quand cela arriverait. Il donne des indications claires pour agir, comment prendre la fuite. Et cet événement aura une fin puisque Dieu l'abrège et Jésus le sait. C'est quelque chose qui est clair. Donc il existe ici deux événements distincts dans ce texte. L'un se réalisera du vivant de la génération des auditeurs, versets 5 à 31, et l'autre à un moment inconnu, versets 32 à 37. Ça va ? Vous comprenez qu'il y a deux événements ? Voilà, on va pas trop vite, mais comme ça on comprend qu'il y a ces deux événements. Jésus annonçait au verset 2 de Marc 13 que le temple serait détruit. Donc il répond à la question de ses disciples du verset 4 qui lui posent deux questions. En fait, il lui pose deux questions dans leur question. Je pense que vous vous êtes rendu compte, regardez le verset 4. Donc il leur demande quand la destruction du temple arrivera, premier événement. Et puis, et là il répond, pendant cette génération, et le signe de la fin de toute chose, événement 2. Et Jésus répond à un moment inconnu. Si je fais les choses un peu en résumé. Donc Jésus met ici, en fait, quelque part, sa réputation en jeu. Parce qu'il prophétise quelque chose que ses auditeurs pourront vérifier. Ils sauront qu'il dit la vérité si ses paroles s'accomplissent. Et Jésus n'a aucune crainte à avoir, évidemment. C'est celui qui connaît toutes choses. Et l'histoire que nous connaissons maintenant confirme ce qu'il a annoncé. Le premier événement annoncé s'est produit en l'an 70. Nous allons y revenir. Donc réfléchissez. Donc là, vous avez compris, premier point, il y a deux événements différents. C'est bon? Alors continuons. On va réfléchir maintenant aux caractéristiques de ces deux événements et allons constater la fiabilité de la prophétie de Jésus. Une première caractéristique est que l'événement qui arrivera dans la génération des auditeurs, donc la destruction du temple, est précédé de nombreux signes et des actions sont indiquées à différentes étapes. Hein, il y aura des signes, voilà ce que vous devez faire. Il y a un signe, voilà ce qu'il faut faire. Pour le deuxième événement, l'avènement de Jésus-Christ, il n'est précédé d'aucun signe permettant de le situer dans le temps. Est-ce que tout ce qui est dit entre versets 5 et 31 n'arrivera plus avant le retour de glorieux de Jésus-Christ? Alors je ne dis pas cela. Je ne suis pas en train de dire cela. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que plusieurs choses qui étaient des signes qui se sont réalisées avant la construction du temple se sont répétées et se reproduisent encore. Mais ce ne sont plus des signes qui annoncent le moment du retour de Jésus. Puisque personne ne connaît le jour ou l'heure à part le Père. Vous voyez, ce qui s'est passé à Jérusalem en l'an 70 est un jugement modèle, si vous voulez. On a vu ça quand on parlait du jour de l'Éternel avec les petits prophètes. On a dans toute l'histoire de l'humanité des moments de jugement qui sont des prototypes du jugement final, si vous voulez. Donc évidemment qu'il y a des éléments qui se passent, eh bien qui nous parlent aussi de l'événement final qui va arriver, c'est vrai. Mais un élément important à comprendre ici, de ce que je comprends de ce texte aussi, en lisant ce texte sans mettre de système eschatologique dessus, c'est que Jésus parle d'un événement où il y a des signes qui l'annoncent, et il parle d'un événement où personne ne connaît le jour. Et donc de calculer quand Jésus revient, etc., c'est aller contre ce que ce texte dit. Personne ne le sait. Puis on verra pourquoi, en fait, Jésus fait cette distinction. D'ailleurs, il y a deux paraboles dans ce texte, hein. C'est vrai que vous l'avez entendu qu'une fois ce matin, quand Loïc l'a lu avant. Moi, j'ai eu le temps d'un petit peu le méditer. Je vous encourage à le méditer encore. Mais dans ce texte, il y a deux paraboles. Il y a la parabole du figuier, hein, qui nous dit en fait que si on verset 28, hein, recevez l'enseignement de la parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que ses fleurs poussent, vous savez que l'été est proche. En fait, la parabole du figuier est en lien avec le premier événement, qui permet de déterminer à quel moment il va arriver. Ok? Alors que la parabole de l'homme qui part en voyage, il y en a une autre, hein, de l'homme qui part en voyage, qui laisse sa maison, et qui en fait, tous ceux de la maison ne savent pas quand il revient. Ça, c'est la parabole pour le deuxième événement, l'avènement de Jésus-Christ. Donc si nous raisonnons la différence principale entre les caractéristiques du premier et du deuxième événement annoncé, donc la destruction du temple et l'avènement du Seigneur. Donc avant la destruction du temple, il y aura des signes qui permettront de fuir. Avant donc la destruction du temple, il y aura des signes qui permettront de fuir. Et deuxièmement, avant l'avènement de Jésus-Christ, il n'y aura pas de signes qui permettront de reconnaître le jour ou l'heure de son retour glorieux. Vous voyez là, ça c'est un élément qui est très fort ici. Hein, tous les signes annoncés se sont passés avant la destruction du temple. Alors comme j'ai dit, il y a aussi des éléments qui nous permettent encore aujourd'hui de réfléchir et de nous préparer, parce qu'il y a des éléments qui nous parlent de l'attitude qui est vécue, que nous continuons à vivre aujourd'hui. Mais quand Jésus dit au verset 32 que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, c'était vraiment ce qu'il fallait faire et que les chrétiens ont fait. Les chrétiens ont fui donc Jérusalem avant qu'elle soit prise par l'armée romaine et qu'elle soit détruite. Ils ont ainsi échappé à la destruction. Hein, Jésus, en annonçant cela, les a épargné ses élus du terrible massacre de Jérusalem. Ce massacre, en fait, il dura 2 ans. Et dans un premier temps, c'est même les querelles internes qui ont poussé des zélotes fanatiques à s'entretuer. Donc le premier massacre, si vous voulez, qui s'est produit, c'est à l'interne, dans ce lieu qui était entouré des armées romaines, où ils se massacraient et ils sont allés jusqu'à même brûler les réserves de vivres alors qu'ils étaient dans une situation d'assiégé. Et ensuite, les Romains, dans un deuxième temps, lors de la chute de Jérusalem, ont massacré une grande partie de la population et fait prisonniers des milliers d'autres. Ce fut en fait la fin de la nation juive et de l'adoration avec des sacrifices d'animaux pour les Juifs. En fait, depuis l'an 70, pendant près de 1900 ans, il n'y a pas eu de pays d'Israël sur les cartes du monde. Et ceux qui sont nés ici avant 1948, s'ils ont étudié une carte du monde, il n'y avait pas Israël sur la carte. Le peuple n'existait plus depuis la destruction du temple en Jérusalem, à Jérusalem en l'an 70. C'est l'événement que Jésus a annoncé ici. Alors je suis bien conscient que en une prédication, je ne peux pas vous donner tous les détails des signes annoncés et leur réalisation, mais je vais tout de même tenter de vous donner le survol pour nous permettre de comprendre que tout s'est réalisé comme Jésus l'a annoncé et qu'il a dit la vérité. Donc là, vous êtes prêts pour le survol? On réfléchit aujourd'hui, hein, ça fait réfléchir. Surtout peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu encore cette façon de voir les choses. On va vraiment rester dans Marc, hein, Marc 13. Donc uniquement restant dans Marc 13, sans aller chercher les textes parallèles, dans Matthieu 24 et Luc 21, moi je compte déjà 19 signes ici dedans. Bon, je dis pas que j'ai totalement raison qu'il n'y en a pas un peu plus, hein, ça après chacun peut faire le cheminement, mais voilà, j'en ai compté 19, et pour chacun nous pouvons voir la réalisation jusqu'en... Donc plusieurs réalisations de ces actes, de l'accomplissement de ces signes sont décrits en fait dans le livre des Actes et dans les épîtres. Comme par exemple les faux Christ. Ça vous le retrouvez dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui existe, qui fait partie de l'histoire. Nous avons Paul va même jusqu'à dire qu'il faut pas écouter, même si un ange du ciel venait annoncer un évangile différent, il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient. Les famines. Je veux dire, vous connaissez Agabus? Ben Agabus, c'est un homme qui a prédit une grande famine sur toute la terre. Alors quand il parle de toute la terre, c'est le monde connu. Là aussi, on doit se remettre à l'époque pour comprendre ce qu'ils sont en train de raconter. Hein. Et là, dans Actes 11, 28, il est dit clairement que c'est arrivé. Qu'il serait livré au tribunal, battu, etc. Eh bien, il suffit de lire la liste de souffrances de Paul dans 2 Corinthiens 11, 23, 27 pour avoir un exemple. Que les paroles sont données au moment où on est jugé. Vous avez vu tout ça dans ce texte avant. Mais un exemple fabuleux, c'est Étienne. Étienne, il se fait arrêter devant le tribunal, mais l'Esprit de Dieu lui donne des paroles, mais c'est juste fabuleux. C'est tous des éléments qui nous montrent que tous ces signes qui étaient, enfin tous ces éléments que Jésus avait annoncés se sont réalisés. On verra, je le dirai encore, mais je le dis déjà maintenant, c'est pédagogique, ça on répète, mais ça veut pas dire que Dieu n'agit plus aujourd'hui pour aider ceux qui sont dans ces situations-là. Dieu est le même, il continue à le faire. Mais c'est plus un signe qui annonce le retour de, qui annonce l'événement, vous voyez? Ça, c'est un élément à comprendre. Donc plusieurs signes sont accomplis, nous le voyons, dans le livre des Actes et dans les Épîtres. D'autres signes sont décrits dans les récits historiques, hein, particulièrement les récits que Flavius Joseph ou Eusèbe de Césarée nous ont transmis. Hein, vous pouvez aller relire aussi tout cela. Les bruits de guerre, les intrigues entre royaumes, etc., c'est quelque chose qui est décrit, qui se passait à cette époque-là. Hein, donc on a même un exemple de la grande instabilité avec, par exemple, 4 empereurs en 18 mois. Donc il y avait des prises de pouvoir, et puis les prises de pouvoir, c'était pas juste « pousse-toi, je vais à ta place hein. ». C'était des guerres, en fait, pour prendre la place de l'autre. Des tremblements de terre nous sont rapportés dans ce temps de l'histoire. Des images des dieux romains sont entrées dans la ville de Jérusalem, puis dans le temple. L'armée romaine vient entourer la ville. Ça, c'était le signe, en fait, qu'il fallait partir. Ça, c'est même Luc qui le donne clairement, ce signe-là. Tout ça, c'est réalisé. Et chacun qui avait entendu ce que Jésus avait dit pouvait comprendre que, ben, il a dit la vérité. Un dernier groupe de signes utilise un langage apocalyptique, connu des disciples. En fait, nous, on a un petit problème, c'est que, comme je vous ai déjà dit avant, enfin, un petit problème. par rapport à la compréhension, hein, c'est que nous, on est plus loin. On a déjà, on connaît la mort, la résurrection de Christ et tout ça. Donc, on a une influence de ce retour de Christ qui est clairement annoncé. Mais eux, ils n'avaient pas ces notions. Ils avaient l'Ancien Testament. Donc, pour annoncer, par exemple, la destruction de la ville de Babylone, je vais vous lire Ésaïe 13, 9 et 10. Il est dit ceci. Et ça, c'était quelque chose qui s'était déjà passé. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation, qui exterminera les pécheurs. Écoutez ce qui est dit ici. Car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa lumière. Ça vous dit quelque chose? C'est exactement ce qui est dit dans le texte de Marc 13. Puis ça s'est déjà passé avant. Alors nous, on est dans une compréhension scientifique, cosmique, on regarde les étoiles. Attendez, mais c'est un langage de jugement ici qui est donné et qui s'est réalisé en 70. C'est un langage apocalyptique qui annonce un jugement. On a cette idée, je vous donne encore deux autres exemples pour que vous compreniez bien que c'est pas juste à un seul endroit. Dans le jugement d'Édom, par exemple, on a cette notion qui est déjà aussi présente, et ça aussi, ça s'est passé. C'est dans Ésaïe 34, verset 4. « Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée se flétrit, comme se flétrit la feuille de la vigne, comme se flétrit celle du figuier. Car mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici qu'elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'interdit pour le jugement. » Ou encore le jugement d'Égypte annoncé par Ézéchiel. Vous allez me dire, oh bon, c'est Ésaïe. Bon, allons chez Ézéchiel. Ézéchiel, il dit ceci quand il parle du jugement sur l'Égypte. « Quand tu t'éteindras, je voilerai les cieux, j'obscurcirai les étoiles, je voilerai le soleil d'une nuée et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les foyers de lumière des cieux et je répandrai les ténèbres dans ton pays, oracle du Seigneur l'Éternel. » Et ça, c'est après les 10 plaies, hein. Sinon, on va me dire, oui, c'est ce qui s'est passé au Diblé. Donc, c'est après que Ézéchiel parle, hein, quand on connaît un peu l'histoire. Donc, le jugement est effectivement tombé sur Jérusalem, comme Jésus l'a annoncé dans Marc 13. Un autre élément aussi, là, je prends un peu plus de temps, parce que c'est les éléments qui, enfin, moi, j'ai besoin de plus réfléchir, hein, évidemment, et de comprendre. C'est le verset 26. Le verset 26, vous avez vu ce qui est écrit? Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. En fait, quand vous entendez ça, vous pensez à quoi? Ben, au retour, à l'avènement de Jésus-Christ, évidemment. Alors, c'est pas faux d'avoir cette notion qu'il viendra, et quand on entend ça, qu'il viendra. Mais il n'est pas en train de parler de ça ici, Jésus-Christ. C'est en fait, les disciples, ils avaient l'Ancien Testament en tête. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons en fait que c'est aussi un langage apocalyptique pour annoncer un jugement. Et ce jugement, ben comme quand Jésus-Christ viendra, il y aura aussi un jugement, ben nous, on est un peu emmêlés dans toutes ces histoires. Hein. Mais là, ici, les disciples, non, ils ont l'Ancien Testament. Regardez, enfin, je vais vous lire dans Ésaïe 19, ce qu'il a dit, par exemple. Menace sur l'Égypte. Voici l'Éternel monté sur une nuée, rapide. Il vit en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte frémissent devant lui, et le cœur des Égyptiens défaille en eux. La même image. Il parle d'un jugement qui arrive. Et Jésus dit en fait que c'est lui-même qui va venir juger la nation d'Israël. Le psaume 97 nous parle du jugement de Dieu avec un langage très vivant et imagé. Hein, ça c'est le type de langage apocalyptique qui peut aussi faire penser à cette nuée dans le psaume 97, versets 2 et 3. Il dit ceci, « La nuée et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit sont la base de son trône. Un feu marche devant lui et il embrase ses adversaires alentour. » Et le jugement est effectivement arrivé en 70, comme Jésus l'avait annoncé. Rappelez-vous, c'est un prototype de jugement. Donc le jugement final, ben, il y a aussi toute cette notion qui est présente du jugement de Dieu, c'est vrai. Mais on n'a plus de signe qui nous dit « c'est là, c'est maintenant !» Alors que ici, oui, c'était le cas. On avait des signes. Pour terminer, bon, je vais pas, comme je dis, je peux pas tout comprendre. Mais je prends encore cet dernier élément sur les anges, là, quand il est dit qu'il va les... Alors il enverra ses anges, verset 27, et rassemblera ses élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Le terme ange, angelos, signifie aussi messager. quand il a dit que Jésus envoie ses messagers, en fait, dans le texte, c'est il envoie ses angélos, puis c'est les apôtres à ce moment-là. Donc ici, et les quatre vents indiquent les quatre extrémités du monde, comme on le voit aussi dans Ésaïe 11, 2. Cela signifie qu'en fait, des messagers sont allés jusqu'au bout du monde. Le monde connu de l'époque, d'ailleurs, a été atteint par l'évangile dans cette période. La prophétie s'est réalisée. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, on ne va plus dans les quatre coins du monde, évidemment. Et ça ne signifie pas qu'un jour, les anges même, mais cette fois-ci plus des messagers humains, mais des anges, aillent rassembler le peuple. Mais bien sûr. Mais ici, Jésus est en train de parler de ce qui se passe à Jérusalem. Donc, dans ce deuxième point, nous avons constaté que la différence entre les deux événements présentés dans Marc 13, c'est que le premier est précédé de signes permettant de voir quand cela arrivait, et tous ces signes se sont accomplis. Jésus a dit la vérité. Le deuxième événement, par contre, l'avènement du Seigneur que nous attendons, n'est précédé d'aucun signe qui nous permet de savoir quand cela arrivera. En fait, à toutes les périodes de l'histoire, depuis Jésus-Christ jusqu'à maintenant, on aurait pu dire c'est le moment. Parce qu'il n'y a pas d'élément qui nous le dit. Des fois, on nous dit, oh, ça va mal, etc. Ben oui, en fait, à chaque moment, on doit être prêt. C'est vrai, à chaque moment. À chaque moment. Et je vous assure que suivant où vous habitez sur Terre, ça va plus ou moins mal. Vous avez plus ou moins l'impression qu'il va revenir. En fait, Jésus ne veut pas que nous cherchions des signes. Ça, c'était du temps des gens qui étaient à Jérusalem lorsque les Romains arrivaient pour qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent se sauver, sauver leur vie. Oui, là, il fallait regarder les signes, être prêt à partir. Même rester sur les maisons, pourquoi? Parce qu'ils allaient de maison en maison, sur les toits, pour sortir de la ville. Enfin, il y a toute une histoire, on peut comprendre tous ces éléments qui sont écrits ici. Comme je dis, je peux pas prendre tout ce temps, mais c'est très intéressant. En fait, Jésus veut que nous ayons l'attitude qu'il demande clairement au verset 37. On va donc passer à notre dernier point. Dans l'attente du premier événement, de la destruction du temple, il est question de, et je vais vous dire un petit peu de l'attitude qui est donnée ici, hein, de prendre garde, de ne pas s'alarmer, de ne pas s'inquiéter pour sa défense, de faire attention, de fuir au bon moment, de ne pas hésiter de prier, de ne pas croire au faux messie, d'être sur ses gardes et de savoir que le jugement est proche. Voilà, c'est tous des éléments que vous retrouvez, en fait, par rapport au premier événement. Dans l'attente du deuxième événement, verset 32 et suivant, l'avènement de Christ, il est dit « Prenez garde, veillez et priez, veillez, craignez de dormir, veillez !» Quelle attitude ressort de tout cela? C'est le verset 37. Veillez, veillez. Alors, pour le premier événement, la veille est pour observer et agir dès que le moment est venu afin de fuir et sauver sa vie. Voilà le but de veiller dans le premier événement. Hein, il veillait pour observer et agir dès que le moment serait venu afin de fuir pour sauver sa vie. Dans le deuxième événement, qui est l'avènement du Seigneur, la veille est pour être prêt à tout moment. En fait, on veille pour être prêt à tout moment. Il ne s'agit pas de comprendre des signes, mais de vivre de manière à accueillir notre roi à n'importe quel moment. C'est ça la situation. Le premier événement de la destruction du temple est passé. Nous n'allons plus vivre comme si nous devions lire les signes pour fuir au bon moment dans les montagnes de Judée. C'est loin d'ailleurs. Depuis ici, ça fait loin. Non. Je nous encourage donc à ne pas chercher des signes pour savoir si Christ revient dans un peu de temps ou dans longtemps. On n'est pas appelé à faire ça. Ne perdons pas du temps à faire ça. Par contre, la notion et l'esprit qui poussaient les chrétiens à rester fidèles au seul Jésus-Christ, on peut reprendre ce qui s'est passé dans cette première partie. Il y avait des faux messies, donc éloignez-vous, restez proche de Christ, bien sûr. Nous devrions là avoir cette notion de rester proche de lui, de ne pas chercher à suivre d'autres messies. Nous ne voudrons pas que Jésus revienne alors que nous sommes en train de suivre un faux messie ou bien. L'espérance qu'il pourvoit lorsque nous sommes persécutés et accusés à tort reste. Dieu ne change pas. C'est pas parce que c'est dit avant dans le premier événement que Dieu donnera les paroles nécessaires que après il ne le fera plus. Dieu reste le même. Vous comprenez? Donc c'est des éléments qui restent. Nous continuons à être des messagers jusqu'aux quatre vents. Nous savons que les anges sont aussi des messagers de Dieu qui rassembleront les élus, c'est vrai, lors de son retour. En fait, toute l'attitude de l'attente du premier événement nous enseigne et nous pousse à continuer à rester proche de Jésus-Christ et de sa parole. Ça, c'est bon. Et ça, c'est quelque chose qui reste et qui est important de vivre. Toutes les attitudes de l'attente du premier événement nous enseignent et nous poussent à continuer à rester proche de Jésus-Christ et de sa parole. Et face au deuxième événement, dont personne, sauf le Père, ne sait le jour et l'heure, il faut, nous dit simplement, je mets simplement de guillemets, hein, veiller. Veiller. Et il raconte l'histoire du maître de maison qui peut revenir à tout moment. Il ne faut pas qu'il nous trouve endormis.
J'espère que c'est clair pour tous. Hein. C'est pas une question de sommeil physique ici. Un chrétien peut dormir. Hein. On parle pas de sommeil physique ici. Ça sort bien clair. On parle d'un sommeil spirituel. C'est d'un éloignement de Christ.
S'éloigner de Christ, c'est s'endormir spirituellement. On pourrait réfléchir aux différents moments indiqués dans la parabole ici, hein, quand il parle du soir, du milieu de la nuit, au chant du coq, le matin. Réfléchir en fait à tout ce que ça implique dans nos vies. Qu'est-ce que veut dire tous ces moments dans nos vies? Qu'est-ce que ça signifie veiller à ce moment-là, etc. Hein, donc ça, ben je vous invite à le méditer. Je peux pas le prendre maintenant, le temps passe. Mais j'aimerais simplement nous laisser une question que nous pouvons nous poser à chaque instant. Si Jésus revenait maintenant, bon c'est déjà passé, mais vous comprenez l'idée. Si Jésus revenait maintenant, considérerait-il que je veille ou que je dors spirituellement? Qu'est-ce qu'il dirait? Ça c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il considérerait que je veille ou que je dors spirituellement? Si Jésus revenait maintenant, est-ce que je dirais la même chose que ce que j'ai envie de dire là? Est-ce que je nourrirais cette pensée? Est-ce que j'agirais de cette manière? Est-ce que je laisserais traîner cette décision? Est-ce que j'attendrais pour me repentir? Est-ce que je me dirais, ben, je réparerais ça un peu plus tard? Si Jésus revenait maintenant, quelle serait mon attitude? Est-ce qu'il considère que je suis en train de veiller ou bien est-ce que je suis en train de dormir spirituellement? Alors pourquoi chercher des signes du retour glorieux de Jésus-Christ? Jésus n'a pas enseigné à chercher cela dans Marc 13, mais à veiller. Veiller. Les signes attestaient les prophéties que ses auditeurs pouvaient vérifier pour prouver qu'il a dit la vérité. Oui, mais nous sommes appelés à veiller. Et pour veiller, il faut être réveillé. Alors spirituellement, cela signifie vivant en Christ. Si nous ne sommes pas vivants en Christ, nous ne pouvons pas veiller. Si nous ne sommes pas réveillés, nous ne pouvons pas veiller. Donc là, j'ai quelques questions à vous poser. As-tu déjà compris que tu es pécheur et que tu mérites le jugement éternel? As-tu déjà demandé pardon à Dieu et à ceux qui t'ont offensé? Je peux dire, est-ce que tu continues à le faire? As-tu déjà réalisé avec reconnaissance que Jésus-Christ a pris le jugement que tu méritais? Il l'a pris à ta place? Tu as déjà réalisé cela? As-tu déjà manifesté publiquement, bien humblement, parce que tu sais que tu vas encore progresser, mais que tu es enfant de Dieu par le baptême? Alors si tu as pu répondre à toutes ces questions, réjouis-toi, tu es en état de veille et tu peux être stimulé, stimuler les autres dans cet état de veille. Si tu n'as pas pu répondre positivement à toutes ces questions, réfléchis. Détourne-toi de tes péchés, crois en Jésus-Christ, manifeste ton allégeance publiquement, car sinon ta rébellion contre Dieu indiquera que tu ne veilles pas. Mes chers frères et sœurs, veillons, ne cherchons pas des signes, veillons. Nous attendons le jour de l'avènement de Christ, il n'y aura plus d'après. Ce sera le moment de lui faire face. Tout le monde, sans exception, même ceux qui se moquent de Jésus-Christ et qui se moquent de nous maintenant, seront à genoux avec nous devant Jésus-Christ, qui se manifestera glorieusement et qui jugera le monde. Il viendra à un moment inattendu. Écoutons donc Jésus, confiant qu'il gardera les réveillés. Ça, c'est des promesses qu'il nous dit, qu'il gardera ceux qui sont réveillés. Et voici ce qu'il nous dit, prenons-le avec nous, c'est le verset qu'on peut aussi prendre avec nous cette semaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Merci pour les disciples qui ont posé des questions. Et merci pour cette grâce que tu nous fais d'y avoir répondu. Et de nous donner, Seigneur, un texte qui nous encourage à regarder à toi. Tu es celui qui connaît chaque événement et qui a annoncé cet événement en 70 à Jérusalem qui s'est passé, qui a accompli, Seigneur, tout ce que tu as dit et qui en même temps était un prototype de ce jugement qui est devant nous et qui doit nous faire réfléchir. Tu as dit par contre à tes disciples que cet événement, le jour, personne ne connaît ni l'heure, est un jour qui arrivera à un moment où nous ne pouvons pas déceler. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les fois où nous avons pris du temps pour chercher à calculer quand tu pourrais revenir. Tu as le temps qui est perdu parfois à chercher à démontrer les signes que ceci, cela annonce ton retour. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à ne pas nous éloigner de toi, de cette intimité avec toi, de chercher à vivre d'une manière qui t'honore, en fait, à être des témoins fidèles, à être le sel et la lumière de ce monde, non pas les calculateurs de ce qui pourrait arriver. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous donner cette grâce. Nous savons que tu es ce Dieu qui va agir, qui va revenir. Nous savons que ton retour est imminent, depuis l'apôtre Paul qui disait déjà qu'il était imminent. Il peut arriver à tout moment. Donne-nous, Seigneur, de veiller, d'être prêt. Et nous te disons merci aussi, parce que nous n'avons pas pu le voir aujourd'hui, mais ta parole nous enseigne clairement que tu gardes tes enfants et qu'aucun ne sera dans une situation où il n'aura plus d'huile dans sa lampe et il est endormi et l'époux est arrivé et il ira dans l'enfer éternel. Non, Seigneur, tu dis clairement que tu pourvois à la lampe de tes enfants. Et nous te remercions pour cette grâce. Donne-nous, Seigneur, de chercher vraiment à veiller, à être proche de toi, à vivre d'une manière qui t'honore, et à avoir cette question plutôt de se demander, mais quand tu es là, quand tu reviens, est-ce que tu me vois en train de veiller? Plutôt que de chercher, quand c'est qu'il vient? Aide-nous, Seigneur, à être proche de toi, et à t'aimer. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.